La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
En cette période de fête de fin d'année, c'est un feu d'artifice gigantesque que je vais vous offrir avec mon invité Jean-Luc Attilla, le plus grand feu d'artifice de tout l'univers. Il s'agit de ce qu'on appelle les sursauts gamma. Imaginez des explosions réparties partout dans l'espace lointain qui libèrent en quelques secondes une énergie égale à celle que le Soleil libère pendant toute son existence, c'est-à-dire pendant 10 milliards d'années. Imaginez que ces explosions se concentrent sous forme de jets qui se rapprochent de nous à 99,99% de la vitesse de la lumière. Rassurez-vous, ces jets sont beaucoup trop lointains pour nous atteindre directement. C'est leur rayonnement qu'on reçoit. Jean-Luc Attilla va nous expliquer tout ça. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Sylvie.
Quelques mots sur ta carrière. Tu es astrophysicien à l'IRAP, qui est l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Tu es spécialiste des phénomènes cosmiques violents, très énergétiques, qui nous envoient des rayons X et des rayons gamma. Pour cela, tu as conçu, réalisé et exploité plusieurs instruments d'observation sur le sol terrestre ou embarqués à bord de satellites. Il y en a actuellement en cours, par exemple un satellite franco-chinois du nom de SVOM qui doit être lancé en 2023. Il va bien falloir deux émissions pour que tu nous racontes tout cela. Mais d'abord, quand et comment le premier sursaut gamma a-t-il été découvert? Je crois que c'est une histoire un petit peu particulière.
Oui, tout à fait. Donc, pour découvrir les sursauts gamma, il fallait d'abord que nous soyons capables de sortir de l'atmosphère, puisque les rayons X et gamma ne traversent pas l'atmosphère. Donc il a fallu attendre l'arrivée des satellites. Mais ce qui est particulier dans l'histoire des sursauts gamma, c'est le fait qu'ils n'ont pas été découverts par des satellites scientifiques, mais par des satellites militaires. En effet, au début des années 60, les Américains, les Russes, les Anglais, les Français ont signé un accord de non-prolifération de l'arme nucléaire qui interdisait en particulier les explosions nucléaires dans l'espace. Il a donc fallu surveiller que cet accord était bien respecté en envoyant dans l'espace des satellites qui étaient capables de détecter une des manifestations des explosions nucléaires, c'est-à-dire l'émission de rayons, d'un flash de rayons X et gamma. Ces satellites ont été envoyés en 1967, les premiers, et donc quelques années après la signature de l'accord, et ils ont effectivement détecté de temps en temps des flashs de rayons gamma. Il a fallu que les militaires soient convaincus que ces flashs ne venaient pas d'émissions n'étaient pas dues à des émissions humaines, mais que c'était des phénomènes cosmiques et astrophysiques pour que leur découverte apparaisse dans les revues scientifiques la première fois en 1973 et qu'ensuite les scientifiques s'emparent de cette thématique.
C'est-à-dire que en fait ils n'ont pas découvert d'explosion nucléaire ce qu'ils cherchaient, mais ils ont découvert quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. Hein, ça, c'est ce qui arrive souvent quand on fait de la recherche. Les découvertes, ce n'est pas quelque chose qu'on cherchait. En fait, par définition, ça nous tombe dessus un petit peu. Mais donc, ces rayons gamma qui nous arrivaient, qui leur arrivaient, ne correspondaient pas à ce qui arrive quand il y a une explosion nucléaire. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était.
Exactement. Évidemment, ces phénomènes ont suscité un grand intérêt. Et les détecteurs étant assez simples, les autres pays ont aussi développé des détecteurs. Et pendant une quinzaine d'années, plusieurs pays, dont la France, ont envoyé des détecteurs dans l'espace qui nous ont permis de petit à petit mieux comprendre ces phénomènes. Et une des particularités, c'était leur durée, quelques secondes. Et l'autre, c'était leur direction qui avait l'air d'être aléatoire sur le ciel. Quand on regardait dans la direction d'où venait un sursaut gamma, on ne voyait rien de particulier. Mais il faut dire qu'ils étaient très très mal localisés à cette époque-là.
Ça pouvait paraître un petit peu effrayant d'avoir des explosions comme ça dans l'espace. Et alors on se demandait si c'était près, si c'était loin. Enfin, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas d'où ça venait. Alors je crois que plus tard, on a compris que ce sont des explosions extrêmement lointaines dans l'espace. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé à comprendre que ça venait de très, très, très loin?
Oui, alors au tout début, effectivement, il y avait peut-être 200 théories qui expliquaient ça, dont certaines disaient que c'était dû à des extraterrestres, d'autres à des impacts dans le système solaire, etc. Et puis petit à petit, avec les observations, on a précisé tout ça. Et sont restées en compétition deux hypothèses. Une hypothèse qu'on va dire locale, où c'était des phénomènes qui étaient comme les étoiles qui nous entourent, et qui avaient l'avantage d'être dans notre galaxie, et on connaissait des tas d'autres sources de rayons X dans notre galaxie qui avaient été découvertes à peu près en même temps. Les pulsars X, des choses comme ça, des sources de sursauts X. Donc ça paraissait pas aberrant. L'autre hypothèse, comme ils étaient répartis un peu partout dans le ciel, c'était de les mettre à une échelle cosmologique très 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 loin, plusieurs milliards d'années-lumière de la Terre. Et là, le problème auquel les gens étaient confrontés, c'est qu'il fallait des énergies proprement monstrueuses pour, si on voulait les mettre à cette distance-là, et on ne voyait pas très bien ce qui pouvait provoquer de tels cataclysmes.
Quand tu dis les mettre à ces distances-là, c'est un langage un peu scientifique, parce que c'est pas toi qui les prends et qui les mets quelque part. En fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre où ils sont, et suivant l'endroit où on imagine qu'ils sont, quelles sont les conséquences pour nous, pour finalement arriver à cerner précisément cet endroit. C'est un peu ça.
Oui, oui, tout à fait. C'est un abus de langage. C'est les modèles qui les situent à cet endroit-là. Et donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette incertitude a duré jusqu'au début des années 90, où les Américains ont envoyé un satellite qui était 10 fois plus sensible que tous les précédents. Et on s'est dit que s'ils étaient dans notre galaxie, on allait voir la structure de la galaxie, qui est la Voie lactée, que tout le monde connaît bien. Donc on s'est dit qu'on allait voir la Voie lactée avec ses sources X.
C'est-à-dire qu'on imaginait qu'on verrait des sursauts gamma dans la direction de cette bande, quasiment, qui est la trace de la Voie lactée dans notre ciel. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on a vu. Il y en avait autant partout, quoi, c'est ça ?
Exactement, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas vu une concentration dans le plan de la Voie lactée ou dans le centre galactique, mais la distribution continuait à être tout à fait homogène sur le ciel.
Ça veut dire qu'en fait, ça venait de partout dans l'espace, donc c'était déjà l'idée que c'est ce qu'on appelle cosmologique, c'est-à-dire que ça vient de l'univers tout entier. Mais comment est-ce qu'on a pu montrer qu'ils sont à des très grandes distances? Comment est-ce qu'on a pu mesurer leur distance, finalement?
Alors, pour ça, il a fallu avoir d'autres informations que celles qu'on a eues pendant les 25 premières années sur ces événements-là. Pendant 25 ans, on n'avait que le signal X et gamma qui dure quelques secondes, qui s'éteint, et après, on n'avait plus rien. Ensuite, en 1997, les Italiens et les Hollandais ont lancé un satellite qui s'appelle BepoSax, qui a permis de localiser beaucoup plus précisément cette émission haute énergie, et donc de pointer très rapidement dans la direction précise du sursaut gamma des télescopes. Et là, à la surprise des observateurs, on a vu une nouvelle étoile, puisqu'on connaît très bien le ciel, on a des cartographies du ciel, et on avait une étoile qui n'était pas là avant, et qui disparaissait au bout de quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'était clairement quelque chose qui était associé au sursaut gamma.
C'est-à-dire que ce n'était pas en réalité une étoile?
Alors, c'était... En fait, c'était la fin de la vie d'une étoile, mais je ne veux pas aller trop trop vite. C'était quelque chose qui apparaissait comme une étoile, et quand on regardait, si on peut faire l'image, donc si on fait une image, ça apparaît comme une étoile. Si on fait ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire qu'on décompose la lumière, à ce moment-là, on voyait que cette étoile se produisait dans une galaxie très 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 lointaine parce que sa lumière était absorbée par le gaz et les éléments qui se situaient dans cette galaxie. Donc ça, c'était une preuve indubitable qu'on avait affaire à un phénomène qui se produisait très très loin et donc qui dégageait une énergie énorme.
C'est-à-dire qu'on analyse la lumière, on fait faire un spectre, en fait, c'est un petit peu comme, comme un arc-en-ciel, un grand arc-en-ciel dans toutes les longueurs d'onde. Et en étudiant ce qui se passe, la lumière qu'on reçoit dans toutes ces longueurs d'onde, les astrophysiciens savent maintenant à quelle distance se trouvent les objets célestes qui ont émis ce rayonnement. Hein, ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Et qui est peut-être un petit peu long à expliquer, mais qui est une preuve de, qui apporte une preuve de la très grande distance de ces explosions. Donc en fait, je vous l'avais dit au début, c'est vraiment un très grand feu d'artifice. Et il va falloir vraiment du temps pour en parler, en particulier de ce satellite SVOM franco-chinois qui va bientôt être envoyé dans l'espace. On va se retrouver la semaine prochaine, Jean-Luc. Alors, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.
À bientôt.